Vous écoutez
RMC. RMC
18h-20h
Rotten Régal spécial UEFA Euro 2020.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
19h18 toujours sur RMC bien sûr dans Rotten Régal. Allez, vous entendez la musique de l'Euro. On est avec Jean-Louis Tour, Jean-Michel Larquet. On va rentrer dans la compétition bientôt, on a hâte.
Exactement, 21h le premier match entre la Turquie et l'Italie. Match en intégralité sur RMC. Cérémonie d'ouverture juste avant. Évidemment, vous ne raterez rien de cette compétition. Et on va d'ailleurs présenter le plateau, quelques équipes du plateau, parce qu'on se demande qui est le principal concurrent des Bleus. Polo Breitner est avec nous pour parler de l'Allemagne. Salut Polo.
Bonsoir Jean-Louis, bonsoir Jérôme, bonsoir Jean-Michel, bonsoir tout le monde. Bonsoir.
L'Espagne avec Fred Hermel, salut Fred.
Hola chicos.
L'Italie salut, avec Johan Crochet, salut Johan.
Bonsoir à tous.
Et l'Angleterre salut, avec Julien Laurence, salut Julien.
Salut les gars.
Bon, vous avez vu, c'est la pagaille avec nos droits télé. Hein. On va pas parler de ça ce soir.
Non,
mais
non,
voilà.
On va pas remettre une petite
pièce. Pour une fois, c'est pas la faute des Catalans.
C'est pas la faute de Média. Voilà,
là, t'es pas responsable, t'as rien dit, Fred.
Là, j'ai rien dit. Hein. Ouais. Hop, moi, Amazon, en plus.
T'aimes bien Amazon?
T'as pas d'avis?
Ah oui, ça, c'est intéressant, ça.
Pourquoi Polo?
Les gens qui passent leur temps à dire qu'il faut consommer local, est-ce qu'ils vont s'abonner à Amazon?
Oui.
Après, il y a un truc, ça marche très bien. Ils ont peut-être envie d'un truc qui marche.
C'est possible. Oui, c'est pas, bon, bref, on y va, messieurs. On va parler de vos sélections. On va commencer par l'Allemagne, Jérôme. Et en Allemagne,
c'est nos concurrents.
Hein. C'est notre premier adversaire, et effectivement. Ouais. La question, le débat qui agite l'Allemagne. Nous, c'est Giroud, Mbappé, est-ce qu'ils s'aiment bien? Eux, c'est comment jouer au milieu, Polo.
Ah oui, alors c'est intéressant parce que les sulfateuses ont commencé à sortir, évidemment. Les vieux lions, Bertie Fuchs, Lothar Matthäus, ont mis évidemment le doigt là où ça fait mal. Et là où ça fait mal dans l'équipe d'Allemagne, c'est ce milieu de terrain, Toni Kroos et Gundogan, théorique pour la rencontre contre la France, avec et notamment Bertie Fuchs, l'ancien sélectionneur victorieux de l'Euro 96 notamment, qui dit mais on va se faire démonter avec le milieu de terrain de l'équipe de France. Ces joueurs-là sont beaucoup trop offensifs, se projettent beaucoup trop rapidement vers l'avant, donc il faut absolument remettre Kimmich. Et évidemment du côté du sélectionneur, on répond, on dit moi je vis avec cette pression depuis que j'ai pris les rênes de la sélection en 2006. Mais tu te rends compte qu'aujourd'hui il y a une effusion d'articles là-dessus en se disant qu'est-ce qui va se passer, il faut pas que Yogi Löw se trompe. C'est vrai que Toni Kroos, avec ses plus de 100 sélections, quand même c'est peut-être pas la sécurité sociale en ce moment contre cette équipe de France, le milieu de terrain, et notamment qu'il a pas été bon, il a été le moins bon des Allemands contre la Lettonie. Donc si tu veux, le cas Kimmich pose question, puisque évidemment il y a un phénomène de ricochet, et tout ça si tu veux ça embrase un petit peu l'Allemagne en ce moment. Je pense qu'on est vraiment rentré dans l'Euro, les articles évidemment assez cinglants contre la sélection, des articles de très très haute qualité pour expliquer que le plus dur finalement pour cet Euro, c'est pas de gagner l'Euro, mais c'est peut-être tout simplement de sortir de ce groupe, et qu'après on verra ce qui va se passer. Mais en tout cas, je pense que c'est parti d'un très bon pied.
Ouais, bon, de toute façon, il y a de l'excitation aussi du côté allemand, où on attend forcément une réaction. Après, Polo, t'en as déjà parlé souvent, et là je te rejoins totalement. C'est que une compétition ratée, du moins quand il y a des incertitudes en Allemagne, ça veut pas dire que la compétition va être catastrophique. En général, ça fait quart de finaliste, demi-finaliste. Quand c'est moyen et quand c'est très bon, ça va au bout. Donc moi, je m'attends à voir l'équipe d'Allemagne à son meilleur niveau. On l'a vu, ils se sont, même si c'était un adversaire de piètre qualité le dernier match, ils ont quand même mis 7 buts. Ça donne de la confiance aux attaquants. C'est important. C'est important de voir des joueurs exceller comme ça. Et puis il y a eu aussi, pour la plupart, les Allemands qui ont gagné la Ligue des Champions avec Chelsea, ça donne aussi de la confiance qu'ils n'avaient pas forcément avec leur sélection. Et peut-être que là, ça va leur donner du crédit.
Captain, tu les mets très haut là parmi nos principaux concurrents?
Ouais, parce que c'est toujours l'Allemagne, parce que on a vu que c'était quand même une équipe qui savait, pour les grandes occasions, se sublimer. Mais il est évident qu'elle n'a plus les atouts, ou qu'elle n'a pas pour l'instant les atouts qu'elle avait auparavant. La génération, les prodiges n'arrivent pas à arriver. On les attend, hein, ils sont un espoir. Ils ont gagné l'Euro espoir, les Allemands. Mmh. Mais c'est vrai que quand on voit encore Hummels, quand on voit encore Toni Kroos, on s'est dit véritablement que le réservoir n'est pas aussi riche qu'il l'a été.
Là où il y a un réservoir riche, oui. Quelqu'un voulait ajouter un truc, non? Là où il y a un réservoir riche, c'est en Angleterre. et offensivement. Et en plus, c'est un euro à domicile, Julien. Quasiment.
Effectivement, parce qu'ils devraient jouer tous leurs matchs à domicile, même ça pourrait être l'équipe de France en huitième de finale à Wembley, mais c'est vrai que en Angleterre, en tout cas, on croit beaucoup à cet effet domicile, à avoir un petit peu de supporters dans les stades. On sait qu'en général, ça réussit plutôt bien à ceux qui organisent les Coupes du Monde ou les Euros. On est bien placé pour le savoir, nous aussi, en France, même si en 2016, il a manqué un rien. Mais c'est, donc, c'est vrai que ça fait déjà... Ça fait partie de l'optimisme anglais. Et puis, c'est vrai, il y a cette armada offensive assez incroyable, peut-être la meilleure qu'ils aient jamais eue dans leur histoire, même peut-être meilleure que celle des années 60. Je pense qu'il n'y a que l'équipe de France peut-être qui pourrait rivaliser avec l'armada offensive anglaise, peut-être les Portugais aussi, mais c'est vrai que quand tu regardes un Harry Kane, un Rashford, un Sterling, un Sancho, Mount, Grealish, Foden, aussi tout ça, il y a un tel niveau, un tel potentiel offensif. C'est vrai qu'encore une fois, si Southgate trouve la bonne formule, met les bonnes pièces du puzzle dans le bon ordre, dans le bon sens, ça peut faire très mal offensivement.
Il y a peut-être là un problème, Julien.
Ils ont des lacunes.
Il est peut-être là le problème du sélectionneur.
Exactement. Eh oui, tu sais à quel point je le porte pas dans mon cœur.
Ouais.
Mais là, il a vraiment des diamants avec lui. Ce serait dommage qu'il les transforme en poussière, quoi.
Ouais. Bah bien sûr, ouais.
Ouais, ça c'est sûr. Ouais, non, mais c'est vrai que l'incertitude, elle est là du côté. Bien sûr que la qualité individuelle des Anglais, du moins d'un point de vue au milieu de terrain, offensivement, les attaquants, c'est vraiment du très très lourd par rapport à il y a quelques générations. Et ils sont en pleine progression en plus. Ils n'ont pas atteint leurs limites. Mais quid du sélectionneur ? Parce que je pense qu'il faut j'en ai la certitude, il faut un vrai chef de bord. Et on n'a pas l'impression que Southgate, ça soit cet homme-là.
Et surtout que là, il y a besoin de faire des choix. Parce que effectivement, il y a un énorme potentiel, mais il faut faire des choix et ce n'est pas facile.
Ouais, et puis il faut les accompagner, ouais. Jean-Louis. Ce que je veux dire, c'est ce qu'a très bien fait Didier Deschamps au bout d'un moment. Alors même si maintenant, il y a plus d'expérience du côté des Bleus, bien sûr. Mais c'est bien aussi d'avoir des repères et de les mettre dans un certain système. Et puis surtout qu'ils progressent. Et à chacune des sorties, normalement, l'expérience, le fait d'échanger avec ton staff et ton sélectionneur te donne cette envie-là de progresser et puis tu le ressens sur le terrain. Et c'est vrai que c'est pas le cas de tout le monde en sélection anglaise.
Captain, tu veux ajouter un mot sur les Anglais ?
Non, simplement, si nous on a les meilleurs attaquants du monde, les Anglais sont pas mal de ce côté-là.
Ouais.
Je pense que quand tu présentes une équipe avec une ligne d'attaque avec Mount, Rashford, Foden et Kane, tu peux marquer des buts quand même. Hein. C'est quand même des garçons. Et puis, je le répète encore une fois, l'Angleterre peut jouer 6 matchs de 7 euros à domicile avec des jauges qui doivent être intéressantes, je crois, du côté de l'Angleterre. À un moment donné, c'est aussi un petit avantage. Hein. On ne peut pas les écarter.
Comme en 96.
Eh oui, exactement, Polo. Alors, dans un instant... Dans un instant, l'Espagne et l'Italie. On va présenter également Italie-Turquie. Juste avant, balle de break à Roland. Nadal Djokovic, Eric Salio, Florence Serra.
Oui, un jeu à zéro pour Rafael Nadal et avantage pour l'Espagnol sur le service de Djokovic. Un smash de Djokovic, il va en falloir un deuxième, peut-être même un troisième. Attention, le passing Nadal.
Boum,
et c'est le break pour l'Espagnol.
Incroyable.
Extraordinaire.
Et je disais sur le smash, parce qu'en fait, le jeu d'avant avec Eric, on était étonnés parce que Djokovic a manqué un smash.
Qu'est-ce que c'est ce match qu'il a fait,
il est parti dans la bâche, presque. Et donc, déjà un break pour Rafael Nadal.
C'est ce match au milieu du court, là, sans puissance.
On
a l'impression de revoir Florent Serra à l'époque à Roland Garros.
Merci Jérôme. Ça me fait plaisir.
Il attendait depuis tout à l'heure pour la place. Merci messieurs. Eric Sanio, Florent Serra. Dans une seconde, on continue de présenter les adversaires potentiels des Bleus à l'Euro, qui sont les principaux concurrents de l'équipe de France. 32-16, à tout de suite.
MC 18h-20h Rotten Régal spécial UEFA Euro 2020.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
19h30 toujours dans Rotten Régal sur RMC avec Jean-Louis Tour, Jean-Michel Larquet. On finit encore une demi-heure pour rentrer dans cette compétition avec nos correspondants qui sont là.
Exactement, nos spécialistes du italien, espagnol, anglais, allemand, Johan Crochet, Paulo Breitner, Fred Hermel, Julien Laurent sont toujours avec nous dans 1h30. Premier match de 7 euros, Turquie-Italie. On va présenter la rencontre en détail. Et puis, on espère que la France se passionne pour 7 euros et que tout le monde soit à bloc pour suivre ces matchs. Léna Marjac est avec nous dans un restaurant italien à Paris. Salut Léna.
Salut Léna.
Bonsoir tout le monde.
Alors,
et oui, ça y est, je suis dans un restaurant italien avec Carmelina, d'origine italienne. Alors forcément, ici, tout est prêt. La télé est déjà allumée, les tables sont dressées. Il manque plus que les supporters qui vont arriver.
Ils vont arriver, sans doute.
Et je suppose que pour vous, c'est une grande soirée. Le premier match.
C'est une grande soirée, c'est magnifique. Nous, on adore le foot, on adore quand ils jouent l'Italie. Et on est à fond la caisse pour l'Italie.
Vous me disiez tout à l'heure, vous êtes comme des fous. Et juste avant ce direct, vous étiez déjà en train de vous entraîner, d'entraîner vos cordes vocales. Vous
ah oui, oui. Fratelli d'Italia, d'Italia, c'est d'Esta.
Viva l'Italia! Voilà, vous venez d'entendre ici la soirée, l'ambiance va monter, encore une heure et demie avant d'attendre. Mais en tout cas, Carmelina et puis les clients qui vont prochainement arriver sont prêts pour cette première soirée, ce premier match de l'Italie.
Merci Léna Marjac.
Merci Léna. Maintenant, on va en quart. Hein. Faut qu'elle fasse son cara maintenant.
Ah oui, oui, bien sûr, cara, pour la Turquie, pour, ouais, pour égaliser, pour tout à fait, pour équilibrer les choses. Italie-Turquie, on va parler de ce match en détail avec Jeannot Rességui à Rome et Johan Crochet, bien sûr. Juste avant, on finit notre tour d'Europe. En Espagne, Fred, tu me disais, il n'y a aucun enthousiasme pour l'Espagne, pour la sélection.
Bah, il suffit de regarder les sites internet d'AC Marca, là, ils sont tous sur Nadal, quoi. Il faut, et puis après, ils parlent du Real, des projets d'Ancelotti, etc. Il faut aller tout en bas pour trouver des informations sur la sélection espagnole. Bon, pour deux raisons. Déjà, parce que naturellement, les Espagnols, on sait que c'est un football de club et qu'il faut, en général, que l'Espagne passe quelques tours avant qu'il y ait un véritable enthousiasme. En plus, on sait très bien que cette équipe, elle ne va pas gagner. Elle n'est pas du tout favorite. Loin de là. C'est un projet à long terme qui est en train de construire Luis Enrique. Et puis, il y a toutes ces histoires des derniers jours. Alors, simplement, on va donner les dernières informations. Diego Llorente vient d'avoir un troisième contrôle négatif de suite. Donc, son positif aurait été un faux négatif. Donc, finalement, il reste que Busquets. Et Busquets, a priori, le sélectionneur Luis Enrique va attendre qu'il soit de nouveau négatif, puisqu'il est pas, il n'a pas de symptômes, il est asymptomatique. Il va l'attendre pas pour le premier match contre la Suède, mais il espère qu'il soit là quelques jours plus tard contre la Pologne. Bref, on va revenir au 24.
Si c'était un joueur du Real, il serait déjà chez lui.
Ah bah oui, bah oui, bah non, il peut pas. Non,
puis là, tu touches, t'as raison.
Et là, tu touches le truc, c'est que à partir du moment où sur les 40 t'as eu un, quand t'es un joueur, les réservistes avec toutes ces histoires de Covid, etc., qui ont été convoqués par Luis Enrique, il y a zéro joueur du Real qui représente en gros 60% des amateurs de foot en Espagne, les supporters du Real. Donc il y a un désintérêt déjà national parce que cette équipe va pas gagner et que en plus là Luis Enrique s'est mis à dos beaucoup de gens.
Non mais c'est ça qui est incompréhensible, c'est Fred, fou, quoi, quand même. Non mais c'est les gens disent quoi sur les choix du sélectionneur quand même, parce que
c'est du ressentiment contre le Real Madrid puisque il est très très mal parti.
Mais on lui a bien posé la question hein, en conférence de presse, il répond quoi à ça?
Il répond toujours sur les questions sportives, bien entendu. Ça me rappelle un certain sélectionneur français quand il parlait d'un joueur du Real il y a longtemps. Je sais pas, ça dit quelque chose.
Oui, non. Non, vois, là, c'est même pas sur une tête d'affiche ou sur un joueur. C'est sur plusieurs joueurs parce qu'il y en avait, plusieurs au Real qui auraient pu être sélectionnés. C'est ça qui est incompréhensible. C'est vraiment qu'il a une dent contre le Real Madrid. Mais
ah bah oui, c'est clair quoi. Mais c'est pas bon parce que ça n'entraîne pas les supporters derrière cette sélection.
Oui, bien sûr. Bah, de toute façon.
Et l'autre jour, dans Top of the Foot, je disais justement qu'il y avait de nombreux supporters du Real Madrid qui allaient soutenir la France à cause de
cette sélection qui, en plus, est plus faible que sur les années précédentes.
Non, mais qu'elle soit plus faible, Fred nous l'expliquait. Peut-être qu'en effet, elle arrivera à maturité dans un an et demi, dans deux ans, pour le mondial au Qatar. Mais ce qui est sûr, c'est que quand tu t'appelles l'Espagne, comme quand tu t'appelles l'Allemagne, l'Italie, et l'Italie a connu une génération qui était moins bonne que celle-là. On en reparlera avec Johan tout à l'heure. Mais quand ces pays-là, c'est des pays de football. Alors d'un moment, ta sélection est aussi très importante. Et là, on sent vraiment un désamour. Et c'est ça qui est incroyable.
Après, en Espagne, c'est moins important que l'Italie en général. Hein, quand même.
C'est presque une honte. Parce qu'auparavant, le papa de cette sélection, Del Bosque, n'a jamais hésité à prendre et à sélectionner, non pas un, non pas deux, mais plusieurs joueurs
et à même faire la paix entre eux. Entre les Barcelonais et les Madrilènes.
Comment peut-on accepter à la fédération qu'il y ait autant de partis pris, qu'il y ait un tel boycott?
Ils sont anti-Réal aussi à la Fédé, donc c'est parfait.
Comment?
Oui, ils sont anti-Réal aussi à la Fédé, donc.
À un moment ou un autre, ils vont payer les pots cassés, mais c'est quand même ignoble. C'est une honte par rapport non pas au Real Madrid, par rapport au football, tout simplement.
Ah, oui. On va remercier Paulo Breitner, Fred Hermel, Julien Laurence. Merci à tous les trois. Johan Crochet, toujours avec nous. Jeannot Rességui nous rejoint en direct de Rome. Rebonsoir, Jeannot. Il est où, Jeannot? Jeannot a essayé. Il va arriver dans un instant. Alors, l'Italie.
Je suis là.
Ah, il est là, Jeannot.
Ça nous a fait peur.
Non, j'étais en train de regarder le bus des Italiens qui vient juste d'arriver au stade.
C'est sûr que c'est intéressant, ça.
Ah, bah oui, parce que je te signale que j'ai suivi le parcours et c'est très typique italien, parce que même avec une escorte et deux motards, c'était incroyable. Incroyable, ah oui, le bus des Italiens a failli taper deux fois une voiture au départ de l'hôtel. C'était assez surréaliste, mais bon, il y avait du monde au départ de l'hôtel, un petit peu d'ambiance. Il y a eu du monde sur la fin du parcours, avec notamment l'allée olympique. Pardon ?
Mais à quel hôtel ils étaient, Jeannot ?
Je sais pas, là je te l'inventerai pas, peu importe. En tout cas, il y avait du monde au départ du bus et les joueurs viennent donc d'arriver à l'instant même, alors que les Turcs sont arrivés il y a à peu près une petite dizaine de minutes et le public commence à s'installer dans le stade olympique.
Alors, on n'a pas les compos officiels. En tout cas, Johan, ce qui est sûr quasiment, c'est que donc il y aura cette charnière de grande expérience, Chiellini Bonucci, pour encadrer les jeunes. Parce que c'est quand même une sélection jeune, hein, l'Italie.
Alors, c'est une sélection jeune dans l'âge, et puis même, il y a des trentenaires qui n'ont pas une expérience très importante du plus haut niveau. Tout simplement, des joueurs comme Florenzi, Insigne, Immobile, par exemple, c'est 15 matchs de Ligue des Champions. Ouais. Donc, on ne peut pas parler d'un joueur, même s'il a 31 ans, on ne peut pas parler d'un joueur extrêmement expérimenté non plus. Donc, c'est vrai qu'on va beaucoup s'appuyer sur cette charnière Chiellini Bonucci, 37 ans en août pour Giorgio Chiellini. Il est en sélection depuis novembre 2004. Ça fait 17 ans, donc c'est plutôt pas mal. Et Bonucci, 34 ans, 209 sélections à eux deux, messieurs, donc ça pèse quand même aussi. Ils étaient ensemble à la Juve, ils le sont toujours d'ailleurs, ensemble en sélection. C'était d'abord un trio avec Barzagli, souvenez-vous, soit dans une défense à 3, soit c'était Chiellini qui était du coup sur le côté gauche. C'est des joueurs très importants. Alors, Bonucci, c'est pas forcément sur le niveau de défenseur pur, parce que il y a beaucoup à dire sur les performances de Bonucci en défense. Dans le 1 contre 1, il a beaucoup de mal. C'est pas quelqu'un qui a beaucoup de réflexes de défenseur pur, entre guillemets, mais c'est quelqu'un qui complète très bien Chiellini, parce que Chiellini a cette agressivité, ce sens du marquage, du placement, de l'anticipation. Lui, Bonucci, il est un peu plus dans la relance, dans l'utilisation du ballon. Donc, c'est deux joueurs qui se complètent très bien, qui se connaissent très bien aussi, qui sont très expérimentés et qui ont aussi ce caractère. Parce qu'on a des joueurs italiens qui, prenez les deux qui seront titulaires normalement ce soir, Locatelli et Berardi. Ils jouent à Sassuolo, ils connaissent pas la Coupe d'Europe, où Berardi avait joué l'Europa League il y a quelques années. Mais c'est pas des joueurs qui ont l'habitude de ces matchs à haute pression, parce que mine de rien,
ils en jouent des matchs à haute pression avec leur club.
Ils en jouent en championnat, mais c'est quand même pas la même chose. Là, tu débutes l'Euro.
Ouais, après il faut bien débuter, c'est toujours pareil. Le tout, c'est, et tu l'as dit, c'est d'être bien encadré aussi. Il y a des joueurs d'expérience, tu viens de les citer. Mais moi, le doute que j'ai, et tu vas me donner peut-être une réponse là-dessus, c'est l'état de forme de ces joueurs-là, parce que j'ai l'impression que c'est des joueurs qui sont un petit peu sur le déclin, du moins sur le déclin entre guillemets.
Et ils sont sur le déclin, mais il faut se l'avouer, Chiellini n'était pas certain de renouveler son contrat à la Juve, et c'est l'arrivée d'Allegri qui fait qu'il devrait prolonger un an. Chiellini, qui va avoir 37 ans, j'ai dit tout à l'heure, c'est pas tant son niveau individuel, lui c'est simplement des blessures. C'est que plus ça va et plus il se blesse, plus il a du mal à revenir, et donc plus son temps d'absence augmente, et donc plus il devient moins il devient important pour ses équipes, à la fois pour la Juve et pour la sélection nationale, parce que quand tu rates 8 mois sur 12, effectivement ton importance
est le problème il est là. Et alors on est d'accord ou pas, mais Fred et Hermel nous en parlaient avec Ramos par exemple, hein, beaucoup de blessures et le sélectionneur a préféré s'en passer. Là c'est la même, on faisait tout à l'heure en interview, on a fait Marcel Desailly, moi je l'ai vécu en 2004. C'est vrai que c'était un élément fort, très fort, hein, de la sélection dans tous les cas. Le problème, c'est que quand tu es à 50% et que tu n'es plus à ton meilleur niveau, tu risques les blessures. Et puis, même dans le groupe, parce que le message que tu renvoies aux plus jeunes, et c'est pas forcément bon. Donc, moi, j'aimais juste un doute sur la sélection à ce niveau-là.
Jeannot Rességui, les compos d'équipe. On y va, Jeannot. Alors,
on commence par la Turquie, si vous voulez bien.
Puisque
c'est Turquie face à l'Italie. Tchakir pour le gardien de but. Merach sur le côté gauche, c'est le joueur du Havre avec Soyuncu. Et
Demiral pour la charnière et Tchelik, le Lillois, pour le côté droit de la défense. Et les trois Lillois seront titulaires, puisque c'était la grande interrogation de savoir si Unders ou Yazidze allait être titulaire. Yazidze sera certainement côté gauche avec Toufan, Chalaloglou derrière l'attaquant et capitaine Burak Ilmaz, autre Lillois champion de France, avec donc son brassard de capitaine. Okai, Yokuchulu sur le côté droit du milieu de terrain et Karaman sur le côté droit offensif. Voilà pour l'équipe de la Turquie avec Senol Gunes, donc le sélectionneur. Pour Roberto Mancini, pas de surprise étant donné qu'il y a eu pas mal de forfaits au niveau du milieu de terrain, Sensi, Pellegrini, et qu'il y a toujours la blessure de Verratti. Barella, Jorginho, Locatelli pour le milieu de terrain. La charnière Bonucci, Chiellini dont vous parliez à l'instant, 34 ans et 36 ans, Donnarumma dans les buts, Florenzi sur le côté droit de la défense, Spinazzola sur le côté gauche, et les trois offensifs à gauche, Insigne, à droite Berardi, et dans l'axe Immobile. Et voilà donc pour les choix des deux entraîneurs. Okay. Dani Makeli sera l'arbitre de la rencontre, il est néerlandais, et Stéphanie Frappard sera la quatrième arbitre.
Merci Jeannot, à tout à l'heure. La suite de l'avant-match à partir de 20h. Merci Johan Crochet,
merci,
le spécialiste du foot italien. Merci, on accueille messieurs. Damien Jérôme. Salut Damien.
Salut Damien.
Bonjour à tous.
Salut Damien, là on a un beau cadeau. C'est Jean-Michel et moi, bien sûr. Exactement. Jean-Louis était là aussi à la choisie. Donc tu as gagné ton voyage
dans un club Bellambra.
Exactement.
Une semaine dans un club Bellambra.
Un petit conseil, va en Corse, il est très bien, à Bastia.
Je vais prendre le conseil, merci Jean-Louis, merci Jérôme. Bonjour à Jean-Michel aussi.
Ouais, ouais.
Et bien avec plaisir,
Jean-Michel, parce qu'il n'a pas fait grand-chose là-dessus. Hein.
Bravo Damien.
Non. Okay, j'ai juste payé,
Bravo Damien.
Bravo Damien, passe de bonnes vacances. Et vous pouvez encore vous inscrire en envoyant vacances par SMS au 732-16. Il y aura un nouveau gagnant dans l'after ce soir.
Votre jeu sur RMC avec Bellambra. Chez Bellambra, mettez votre quotidien en vacances. Plus d'infos sur bellambra.fr.
Pour jouer, envoyez vacances par SMS au 732-16.
La balade de Rafael Nadal à Roland-Garros face à Djokovic, Florent Serra et Eric Salio.
Ah, c'est incroyable, 33 minutes de jeu et ça sent la bulle pour Novak Djokovic puisqu'il est mené 5-0. C'est dingue parce que le début de match était vraiment accroché et Rafa a pris les commandes comme dans un combat de boxe. Il a placé les uppercuts qui ont fait très mal à Djokovic et Florent, on ne voit pas comment il va échapper au 6-0. Même si maintenant il a lâché l'affaire, il se concentre déjà sur le deuxième set.
Oui, parce que bon, pour revenir, il va falloir passer plus d'une heure sur le court s'il veut remporter ce set. Ça va peut-être faire 5-1, mais c'est surtout le poids dans la balle hein, que met encore Rafa et qui pour moi gêne beaucoup Djokovic. Cette patte gauche qu'il le sort côté revers, il fait énormément de fautes côté revers. Novak Djokovic, il a pas le temps de décaler autour de son revers comme il veut ou d'aller le long de la ligne.
Ouais.
Donc c'est très très compliqué pour
ça. Ça va être compliqué. Merci messieurs, dans un instant le quiz de Roten Régal, à tout de suite.